Foot Karma.
Bonjour, je suis Bina Paradin-Mikoto. L'alimentation peut être un acte heureux et positif pour améliorer notre karma et non synonyme d'inquiétude et de stress. J'échange dans Food Karma avec des acteurs qui œuvrent pour une alimentation bonne pour nos papilles, mais aussi pour notre santé et la planète. Cuisiniers, journalistes, industriels ou encore médecins, les invités de ce podcast incarnent tous le Food Karma. Chacun à leur échelle, ils participent à répandre une énergie positive dans le secteur de la bouffe. Je vous emmène à leur rencontre dans Food Karma. Vous venez avec moi ? Bonjour et bienvenue dans Food Karma. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour ce nouvel épisode Pascal Baiver, qui est le fondateur de la fromagerie Baiver. Bonjour Pascal.
Bonjour Bina.
Pascal, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à mon micro parce que j'adore vos produits et comme je vous l'avais déjà raconté, j'ai découvert votre beurre bien avant de vous rencontrer puisque un jour j'avais lu dans la presse qu'Olivier Rollinger avait mis votre beurre à sa table et ça a piqué ma curiosité. Je suis allée à la grande épicerie, j'ai acheté un de ces fameux petites mottes de beurre de chez vous et j'avoue que j'en garde un souvenir inoubliable. J'ai adoré ce beurre, j'ai trouvé que ça avait vraiment le goût du beurre, que c'est des saveurs qu'on ne trouvait plus. Donc c'est comme ça que je suis tombée en amour de vos produits. Après j'en ai testé plein d'autres. On a eu ensuite l'opportunité de se rencontrer et même de travailler ensemble sur la mise au point d'un ghee qui était le premier ghee à base de beurre français de qualité.
Voilà, merci Bina de cette recette qui est toujours active d'ailleurs.
Qu'on trouve toujours dans vos boutiques.
Qu'on trouve toujours dans nos boutiques et on avait ici quelquefois l'habitude de faire du beurre clarifié sans penser vraiment qu'à un moment donné ça pouvait finalement se fabriquer à une plus grande échelle et c'est vrai que si tant est que vous ayez déclenché un déclic chez moi, celui-ci c'en est vraiment un vrai parce qu'on a toujours cette occasion de continuer de fabriquer ce beurre clarifié et qu'on appelle le ghee hein, sur vos conseils puisque je pense que c'est une tradition ou c'est un nom qui émane de vos origines.
Hein, exactement, et, c'est la tradition indienne de beurre clarifié.
Ça a certainement fait des adeptes hein, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt un produit qui se vend pas trop mal et moi le premier je suis un fervent utilisateur du ghee puisque ça permet de chauffer le beurre sans qu'il noircisse hein, et c'est vraiment un autre bel aboutissement du beurre hein, une autre façon de le déguster mais aussi de cuisiner avec ce produit là de manière saine hein, puisqu'on n'a pas ce
côté grillé qui est réputé être cancérigène
et en plus avec une réputation qui n'est pas très favorable.
Food Karma. J'avais envie aujourd'hui avec vous, Pascal, de discuter de comment on rend accessible, comme vous l'avez fait, des bons fromages, des bons produits laitiers au plus grand nombre. Aujourd'hui, la fromagerie Baiver, ce sont des chiffres assez impressionnants, puisque c'est 400 fromages qui sont distribués, dont un tiers qui sont issus de votre fabrication.
Tout à fait. Ouais.
C'est 25 millions de litres de lait transformés chaque année. C'est 6 ateliers de production qui se sont créés ou que vous avez acquis au fil du temps en Loire-Atlantique, dans la Manche, en Ardèche, en Savoie, dans les Deux-Sèvres. Et c'est un groupe familial que vous avez donc fondé, qui aujourd'hui fait près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 500 collaborateurs et qui dispose d'un réseau de 70 points de vente, dont la nouvelle enseigne L'Heure du Marché, ainsi que 21 boutiques en France et à l'étranger. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est pas mal, hein, c'est comme résumé. Je vais me permettre, Bina, avec beaucoup d'humilité et puis surtout très respectueusement des chiffres que vous a donné, de rectifier deux ou trois chiffres. C'est pas 6 sites de production, mais c'est 7 maintenant, puisque vous avez dû oublier celui de Seine-et-Marne.
En effet.
Hein, donc, on fabrique du brie de Meaux, du brie de Melun, du brie à Savarin, des coulommiers et autres spécialités de Seine-et-Marne. C'est une première petite rectification. Puis la deuxième, c'est qu'on est plus près de 30 millions de litres hein, maintenant en transformation, justement eu égard à l'arrivée de l'atelier de Seine-et-Marne, qui est un des derniers ateliers que nous ayons repris. On pourra peut-être en parler dans des situations, dans des circonstances un peu particulières. Mais comment est-ce qu'on rend accessible, puisque c'est la question hein, de départ. C'est vrai que c'est un peu une histoire, une aventure humaine. humaine, une histoire d'homme, de femme, c'est une histoire partagée, hein, parce que moi je suis le représentant de la fromagerie Bayvert, l'instigateur et le créateur, mais derrière ça il y a forcément une belle petite équipe qui s'est mise en place. Hein,
j'imagine.
Et donc c'est surtout tous ces relais qu'il faut féliciter, hein, qui sont les artisans du quotidien et qui adhèrent à l'esprit d'entreprise que j'ai pu essayer de vendre, c'est peut-être pas le mot, mais essayer de montrer un peu à tout le monde. Et donc derrière tout ça, bah, il faut des gens passionnés par leur métier dans quelque domaine que ce soit, parce que on va partir du début. Pour faire bon, il faut des bons produits. Donc, un bon produit de base, c'est du lait de qualité. Donc, il faut déjà convaincre des producteurs qu'il faut qu'ils travaillent dans le sens de faire un bon produit, parce que le lait, il reste toujours blanc. Hein, mais il peut être plus ou moins chargé de choses indésirables. Hein, donc, il faut aller sur des laits qui sont sanitairement très correct. Hein.
Oui.
Et ces producteurs, eh bien, déjà pour les convaincre de tout ça, il faut aussi leur donner une envie qui passe forcément par l'envie d'adhérer à un projet d'entreprise global, mais qui passe aussi par une rémunération qui respecte le travail. Donc déjà, ces producteurs, je crois qu'on peut dire que l'ensemble de ceux qui nous suivent ont une rémunération qui respecte leur travail et qui est souvent, on va dire, un peu dopée par rapport à la rémunération classique qu'ils peuvent trouver sur d'autres entreprises. Donc, il est clair qu'on est obligé d'aller un peu sur ce domaine-là. Et donc, charge à nous de leur donner ces moyens-là. Donc, une fois qu'on a convaincu, et puis qu'on, au-delà de convaincre, qui par les faits, on prouve que ce que l'on dit, on le fait, eh bien, on a déjà gagné une première partie du match, hein, parce que on
va. Et la qualité de l'ingrédient qui rentre chez
voilà,
vous.
Voilà, il nous faut absolument un ingrédient de qualité qui arrive chez nous. Alors, ça, on va dire, c'est le premier point. Après, bah, il faut que toutes les personnes qui vont prendre en charge cette matière première, hein, ils trouvent également leur compte. Et là aussi, c'est mon métier, hein, d'animateur, parce que finalement, moi, je suis un animateur de toute cette équipe-là. Et donc, à partir de là, eh bien, si on sait bien animer, si on sait bien donner envie, eh bien, on a des gens qui nous suivent dans notre projet. Parce que je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut que les gens nous suivent et il ne faut pas pousser les gens. Donc, quand les gens...
Il faut qu'ils soient convaincus voilà. de venir...
Quand les gens ne suivent pas, il faut répondre à la question du pourquoi. Pourquoi ils ne vous suivent pas ? Donc, si vous arrivez à trouver la réponse au pourquoi, eh bien, la fois d'après, vous n'avez peut-être pas fait l'erreur que vous avez faite pour que la personne qui vous suivait ne vous suive plus. Donc, voilà, hein, c'est un peu mon métier, c'est un peu mon quotidien. Et moi, en fait, c'est ce qui me passionne. Hein. Et donc, du coup, bah, une fois qu'on a un peu tous ces ingrédients, moi, ce que j'aime bien ensuite, hein, au-delà de tout ça, c'est que on arrive à faire des produits de qualité, des beaux produits, en respectant le produit, en respectant l'échelle du temps, parce que souvent les fromages, c'est un couple temps. Température. Hein. On sait très bien que...
Et c'est souvent des processus très longs, en fait.
Et c'est des processus très longs, donc il faut respecter, il faut donner ce temps au temps, il faut accepter. Il faut accepter également la règle des saisons qui fluctue, donc de temps en temps, ben, il y a manifestement des écarts qu'il faut gérer, hein, parce que vous avez une période un peu plus compliquée, souvent les fins d'hiver, par exemple, où les fourrages sont des fois un petit peu plus...
Un
peu moins riches, voilà, c'est le mot qu'il fallait dire, un petit peu moins riche, donc on a des périodes qui sont un petit peu plus compliquées, des chocs des fois qui sont brutaux, hein, au moment de la mise à l'herbe par exemple, où on passe d'une nourriture très sèche à une nourriture plutôt un peu humide, hein, donc on a comme ça des petites fluctuations qu'il faut savoir encaisser, qu'il faut savoir gérer, charge à nous de bien anticiper tout ça, et puis quand on a mis les producteurs en avant, quand on a mis nos collaborateurs en avant, tous ceux qui participent à l'histoire de l'entreprise et à l'aventure, il ne faut pas oublier le dernier maillon qui sont nos clients, hein, parce que nos clients, on en a besoin. Et il faut qu'on ait des gens convaincus de notre esprit d'entreprise, des gens convaincus également du goût, hein, qu'on met en avant, hein, parce qu'on essaye d'être des défenseurs du goût, des vrais goûts, tout en respectant un peu quand même, des fois, l'évolution. Des fois, je dis, les goûts se féminisent. Alors,
discussion tout à l'heure, de commencer sur le picodon, voilà, sur le fait qu'il avait complètement changé dans les années.
Tout à fait, voilà une idée de féminisation du goût, hein, et c'est, quand je dis ça, c'est surtout pas péjoratif, hein, c'est plutôt même très respectueux. Il faut plus de l'élégance que des choses un peu trop fortes ou un peu trop engageantes, hein, voyez. Donc il faut s'adapter un petit peu à cette demande du consommateur, mais on a besoin de nos consommateurs, et nos consommateurs, ce sont eux qui tous les jours, par leur acte d'achat, finalement permettre que derrière on arrive à distribuer cette échelle de valeur à chacun des acteurs qui ont précédé le moment où la personne achète et où le moment où la personne consomme.
Donc, c'est eux qui choisissent et soutiennent votre modèle.
Eh ben ce sont les arbitres, hein, le consommateur, ce sont des arbitres. Si on n'a pas de consommateur, on a forcément avoir la meilleure volonté du monde, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut des consommateurs heureux, au même titre qu'il nous faut des producteurs heureux et des collaborateurs heureux. Donc pour avoir des consommateurs heureux, il faut avoir des produits qui correspondent bien à ce qu'ils recherchent, les écouter, répondre à leurs attentes. Et puis, au moment de l'acte de vente, je pense qu'il faut aussi que tout le monde comprenne bien qu'on est là pour passer un bon moment. Donc il faut des espaces quand on a nos clients.
Parce
avec
que vous
nous.
Avez vos propres boutiques.
Voilà, nos propres boutiques, des espaces d'empathie. On est là. Si on n'aime pas le commerce, je dis souvent à mes collaborateurs, quand ils sont dans ce domaine-là, si vous n'aimez même pas le commerce, il ne faut pas venir. Il y a un petit proverbe chinois tout simple qui dit « L'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique. » Et ça, j'y crois vraiment. Si on ne sourit pas, si on n'est pas heureux de voir des gens en face de soi, il ne faut pas ouvrir boutique. Donc, il faut des gens qui sont dans l'empathie pour que nos clients, eh bien, au-delà de se dire « Tiens, on va aller chez Bayvert dans cette boutique pour acheter parce qu'on aime bien les produits », en même temps, on passe un bon moment.
Donc, vous voyez, un plaisir à y aller.
Voilà, il faut, voilà un petit peu tout le cercle vertueux que j'essaye d'animer.
Finalement, c'est un cercle vertueux du bonheur.
Voilà,
ça correspond bien à la logique de Food Karma.
C'est vraiment ce qu'on doit animer. C'est vraiment ce qu'on doit comprendre. Et c'est ce qu'on essaie de faire modestement. Je dis pas qu'on y arrive toujours, Bina, mais on essaye de le faire au mieux.
Je vous ai préparé un petit zapping de ce qu'on dit aujourd'hui sur le fromage. Et je vais vous faire réagir là-dessus.
La France est souvent présentée comme le pays du fromage. Il faut dire qu'on y fabrique plus de 1000 variétés différentes et que nous sommes de fervents défenseurs des fromages au lait cru, des fromages qui ne manquent pas de caractère.
Il est associé à l'image même de la gastronomie française et d'ailleurs, il est reconnu patrimoine immatériel par l'UNESCO. Et les Français ne s'y trompent pas, avec près de 1000 variétés, des pâtes molles aux pâtes cuites, persillées ou encore pressées, et avec 45 appellations, nous sommes les plus gros consommateurs de fromage au monde.
Mais pour obtenir cette qualité, il y a des conditions de production à respecter.
La qualité d'un fromage, ça dépend de la qualité du lait. Et la qualité du lait, ça dépend de l'alimentation notamment.
L'alimentation des bêtes.
Là, on a différentes espèces. Hein. Et voilà, j'ai du trèfle, j'ai des graminées, j'ai même là du pissenlit. Donc en fait, c'est tout ce qu'on trouve naturellement ici.
Avec cette course à la productivité, les industriels tireraient la qualité vers le bas, selon les défenseurs du terroir. Et parfois, ils iraient même jusqu'à imiter un fromage AOP pour augmenter leurs profits.
Le fromage fait de plus en plus partie des ingrédients qui entrent dans la composition des plats préparés. On le retrouve donc sous forme de dés dans les salades composées, râpé dans les pizzas ou dans les pâtes, ou encore fondu dans les cordons bleus par exemple.
L'AOC veut tout dire et rien dire à la fois. Il y a des AOC, comme je vous dis, qui se respectent et d'autres, non, on fait du grand n'importe quoi.
Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Faut que je réagisse. Il y a des choses que je partage. Hein. La première réflexion sur l'alimentation, elle est tout à fait réelle. Hein. Et je pense que, je le dis souvent, le lait est un décalque du terroir. Donc, si on a une belle alimentation, une bonne alimentation, on va avoir un lait de qualité, un lait gustativement de qualité, parce qu'il y a la qualité organoleptique et puis après, il y a la qualité sanitaire. Alors, il y a quand même les deux qu'il faut pas oublier. Donc cette qualité organoleptique, elle est intrinsèquement liée effectivement à un terroir, à de la nourriture, et vous pouvez avoir une qualité organoleptique Très, très bonne, et puis vous pouvez avoir une qualité sanitaire parce que c'est pas fait dans de bonnes conditions, qui va finalement tuer cette qualité organoleptique. Donc il faut quand même pas oublier la deuxième, il faut que sanitairement parlant ça soit acceptable. On peut pas avoir n'importe quoi dans du lait qui sont notamment les germes pathogènes qu'on connaît, listeria, salmonelle, staph ou E. coli, hein. Donc on est quand même bien obligé de... On ne peut pas être que dans la poésie. Donc moi je suis d'accord avec cette personne qui disait que quand on a une fleur extrêmement présente dans la nourriture des animaux, ça se ressent dans le produit, c'est sûr et certain. Alors, la richesse florale... elle n'est malheureusement pas identique pour tout le monde. C'est vrai que quand on est en France...
Qu'est-ce que vous appelez la richesse florale ?
Ben, le pissenlit, les graminées, les légumineuses et tout ça.
La variété de ce que l'animal va manger.
Voilà, il y a des régions qui sont plus pauvres. Hein. Par exemple, moi, dans l'Ouest, quand on va sur un herbage du Marais breton, hein, Marais breton-vendéen, là... On a une flore qui est assez maigre, c'est comme ça. On a de l'herbe.
C'est pas la même image que le pâturage alpin avec ses milliers de fleurs.
Exactement. Je suis toujours un peu embêté avec l'opposition entre industriels et artisans, industriels et fermiers, industriels...
Ouais, ça, c'est une opposition qui est très intéressante parce que justement, la difficulté peut-être, c'est de sortir de ce dilemme, de cette opposition avec des modèles qui permettent d'avoir une très bonne alimentation.
Voilà. Je pense qu'il ne faut pas opposer tout ça. Il faut essayer de vivre ensemble. Hein. Essayons de faire au mieux les uns avec les autres. Essayons, de toute façon, qu'on soit industriel ou qu'on soit artisan ou qu'on soit agriculteur, c'est peut-être si on fait de la vente directe, c'est là on a toute l'échelle de valeur, donc c'est peut-être un peu moins délicat, un peu plus facile. Mais essayons, comme on dit, qu'on soit industriel ou artisan comme moi, de faire en sorte que l'échelle de valeur soit bien partagée et que les producteurs vivent dignement de leurs produits. Je reviens à ça. Après, il y a un débat sur les AOP. On dit AOC, mais c'est AOP maintenant, appellation d'origine protégée. C'est vrai que ce n'est pas forcément un signe de qualité.
Oui, parce que finalement, il y a pas mal de débats. Il y a ce que vous évoquez, les AOC, AOP. Ouais. Il y a est-ce qu'il faut du lait cru, pas du lait cru.
Voilà, il y a des AOP.
Quels seraient les signes de qualité
Il y a des AOP qui sont exclusivement au lait cru, comme le Comté, comme le Reblochon. Il y en a d'autres qui laissent la porte ouverte à des produits pasteurisés. Hein. Vous souvenez-vous du débat très récent sur le camembert. Hein,
complètement.
Je pense que là, il y a eu... un débat, il y a eu une décision qui va, moi, je trouve, dans le bon sens, en défendant les camemberts ou les crus, qui sont cette vérité de terroir que j'exprime depuis le début de cette conversation. Donc, il y a des AOP qui sont plus contraignantes que d'autres, il y a des AOP qui sont un peu trop souples, et je pense que ça tire pas vers le haut. Mais... diaboliser les AOP de manière très radicale, c'est pas non plus ce qu'il faut faire. Enfin, vous allez dire, il est toujours modéré, mais je pense qu'il faut être modéré dans la vie et faut faire attention.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut juger un peu sur pièce. Finalement, c'est aussi le producteur qui garantit qu'il a apporté la meilleure démarche et pas seulement le label.
Voilà. Donc il y a des AOP, je trouve, qui font très très bien leur travail. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus laxiste, mais malgré tout, c'est quand même une idée d'aller vers le haut. Alors après, quels sont les autres labels ? Eh bien, après, il y a plein de labels qui peuvent laisser penser qu'on a des produits de qualité. Ça peut être le bleu blanc cœur, ça peut être le bio, ça peut être le bio méthode Déméter. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont des signes de qualité. Le label rouge, c'est normalement aussi un signe de qualité. Mais dans tout ça, je pense que le consommateur, il se trompe pas. Il faut faire bon et sain. Et si on fait bon et sain, on a toujours des consommateurs qui vont nous suivre.
Food Karma. Food Karma.
Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus sensibles aux fruits, légumes de saison. Ils se préoccupent de manger au cœur de la saison. Sur les fromages, il y a aussi une logique saisonnière, mais qui, je pense, est encore beaucoup moins connue. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, effectivement, on a des fromages qui sont très saisonniers, hein, il faut le savoir. Je vais vous en citer quelques-uns. Le Mont d'Or, hein, du Jura est un fromage saisonnier, mais beaucoup de fromages de brebis, hein, corse, hein, notamment, les brouches, les vrais brouches fermiers, ou les bastelicatch, ou les spécialités corse sont fabriquées qu'à partir du moment où les brebis mettent bas. Donc on a les premières fabrications qui sortent en décembre, janvier, et puis ça s'arrête au mois de juin, juillet, quoi. Et donc on a 6 mois où on n'a plus de produits. Donc des fois on arrive à être raccord sur certains produits parce qu'on les fait sécher et puis on les mange un peu plus durs. Enfin, voilà. Mais quand c'est du brouch, par exemple, on ne peut pas trouver des brouch où ils deviennent pas sous. Hein.
C'est
plus du brouch frais. Donc, on a des fromages saisonniers. On a encore beaucoup de fromages de chèvre qui sont saisonniers, c'est-à-dire qu'on a des producteurs de chèvre, hein, qui travaillent avec les règles de la nature et qui sont en rupture de lactation sur quelques mois de l'année. Donc, il y a des fromages qu'on ne retrouve pas toute l'année. Après, si on va sur les fromages de vache notamment, il y a quand même une saison, il y a deux belles saisons, je vais dire. Il y a la saison du printemps, hein, où l'herbe est très généreuse et donc on retrouve les produits, pas instantanément, mais au bout de quelques semaines, quand on est dans des pâtes molles à croûte fleurie ou des pâtes molles à croûte lavée, on retrouve les fromages quelques semaines plus tard et on a... sur des laits du mois de d'avril-mai, on retrouve des très bons fromages en juin-juillet, le temps de l'affinage. Mais sur des pâtes pressées cuites, on retrouve ces fromages plutôt 6 mois, 8 mois, 1 an après. Hein, voyez, et donc, on peut manger des très bons fromages en toute saison. Ça dépend un petit peu de la technologie du fromage qu'on a devant soi. Mais quand on a plutôt des pâtes molles, des choses comme ça, eh bien, on a la saison du printemps, hein, avec ces quelques semaines de décalage pour l'affinage, et puis la saison de l'automne avec le regain, vous savez, la deuxième pousse de l'herbe, là, où on a vraiment des très bons fromages également qui sont...
Et qu'on trouve sur les étals à quel moment, du coup ?
Vous allez les retrouver au mois d'octobre-novembre, là, vous voyez. Hein.
Comment on compose un bon plateau ?
On compose, pour moi, un bon plateau en essayant de mettre... j'allais dire 3 ou 5 produits de familles différentes et de pâtes et de textures différentes. Hein. On dit souvent qu'un plateau de fromage arrive peut-être pas au meilleur moment du repas, hein, quand on le mange en fin de repas comme ça. Donc il faut réveiller l'appétit, il faut réveiller les papilles. Donc il faut jouer sur les couleurs, il faut jouer sur les formes, il faut jouer sur les textures. Donc on essaye de mettre...
Faut que ça fasse envie.
Faut que ça fasse envie, voilà. Faut bien présenter ça. Et donc ça va, je pense que les formes et les couleurs vont réveiller les papilles, même si elles sont un petit peu fatiguées parce que vous avez consommé avant. Et il faut varier un petit peu. J'aime bien les chiffres impairs. Bon, je sais pas, c'est ma petite règle à moi. Donc 3, 5, je trouve ça bien. Avec
deux... considéré comme auspicieux dans l'hindouisme, voilà, donc je trouve moi aussi.
Donc en jouant un petit peu sur, je vous dis, deux ou trois textures différentes, et puis peut-être deux ou trois catégories, enfin, ou une ou deux catégories, en fromage de vache, fromage de chèvre, fromage de brebis. Enfin, oui, il y a plein de choses à faire pour bien mettre en avant, faire un plateau de fromage qui donne envie. Puis moi, j'ai des choses toutes simples. Je me dis, si vous avez un bon Coulommiers, un bon Brillat Savarin, si vous avez un bon Saint-Nectaire, si vous mettez qu'un fromage, mais un bon. Voilà. Puis c'est très bien. Et vous mettez un petit vin qui va avec, ça va bien se passer.
Justement, qu'est-ce que vous aimez boire avec le fromage ? Vin, bière, cidre, ou même d'autres boissons sans alcool ?
Ouais, alors... j'ai pas, sur les autres boissons sans alcool, j'ai pas trouvé vraiment de mariage extraordinaire. Je vais être franc avec vous, mais le cidre va très très bien avec le camembert. La bière se marie, je trouve, extrêmement bien avec des fromages à croûte lavée du Nord. Le vin, il y a plein de mariages intéressants, comme le champagne avec un Chaours ou un Brillat Savarin. Vous mettez un Gewürztraminer avec un Münster, ça marche toujours très bien. Vous mettez un Sauternes ou un vin moelleux à avec tout ce qui est bleu et roquefort, je trouve que c'est des beaux mariages. Donc il y a un Sancerre et un Crottin de Chavignol, moi je trouve que c'est fabuleux. Et puis Bina, comme je sais que vous avez un petit votre cœur va du côté de la Drôme et de tous ces vins un petit peu plus puissants qu'on trouve dans les ermitages, les gros ermitages, les cornasses et autres, Saint-Joseph de cette vallée du Rhône, eh bien, côte rôtie, hein, si vous mettez des fromages à croûte fleurie, comme le brie, comme le camembert avec ça, je trouve que c'est des très très beaux mariages intéressants.
Très intéressant. Donc du coup, on peut avoir un fromage et un très grand vin ensemble. Voilà, ça peut être une fête à la fin du repas.
Exactement.
Et quel pain vous recommandez avec le fromage ?
Ah, alors là, c'est une bonne question. Le pain, moi, j'aime pas les choses compliquées. Alors ça, c'est mon avis. Hein. Moi, j'aime pas tous ces pains au raisin, ces pains machin, tout ce qu'on veut là. Moi, j'aime bien un bon pain avec une mie. Un peu souple. Moi, j'aime bien ces pains traditionnels, classiques, un peu grossiers, avec une mie bien alvéolée et une croûte bien croquante, vous voyez, bien cuite. J'aime bien les pains bien cuits. J'aime pas les pains qui sont trop mous, pas cuits, insipides. Là, vous voyez,
j'aime beaucoup les pains bien cuits, mais je sais que c'est pas forcément le goût le plus courant.
Voilà, mais pourtant, je trouve que c'est ça qui va aller le mieux avec un fromage. Et puis, pas trop de complexité, de complications dans les goûts. Tout ce télescope à la fin entre le raisin, la noisette, la noix, le machin. Enfin, bref, vous voyez, moi, j'aime bien les choses. C'est franche.
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.
Food Karma.
J'ai un petit questionnaire foodie à vous poser. J'aimerais savoir quel est votre plat favori de partage, celui que vous partagez avec votre famille, vos amis.
Ah oui, j'en ai plusieurs. J'aime bien partager un pot-au-feu. Je ne suis pas obligé de parler fromage. Hein.
Ah non.
Hein.
Plat en général.
Bon, ouais, j'aime bien partager un pot-au-feu. J'aime bien partager une blanquette de veau. J'aime bien partager un saucisson lyonnais. J'aime bien partager un petit civet de lièvre. Ouais, je crois que je vous ai dit pas mal de choses, mais j'aime bien partager une douzaine d'huîtres et quelques langoustines avec une belle mayonnaise, et puis quelques crevettes grises, parce que je trouve ça très très bon, les petites crevettes grises qu'on appelle les boucous chez nous, et j'aime bien partager également, tiens, une petite pêche aux palourdes que je vais vous faire réduire dans un petit jus de citron et que je vais vous allonger avec une petite crème au thym, et vous allez manger ça avec gourmandise en vous suçant les doigts un petit peu, et c'est très 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 bon.
Vous me donnez faim. Est-ce que vous avez un plaisir solitaire, quelque chose que vous ne mangez que quand vous êtes seul ?
Je me régale très souvent de choses très simples, voilà. Et je peux le partager si mon épouse m'entend ou m'écoute. Je crois qu'elle sera tout à fait d'avis. Des fois, on se dit, mais c'est tout simple ce qu'on a mangé ce soir. Mais on va se prendre du pain, du beurre. On va manger un artichaut cru ou des fèves quand elles sont toutes fraîches. On va se régaler avec ça. Mais on va se régaler avec une petite rosette de Lyon un peu sèche, ou on va se régaler avec un beau morceau de fromage moelleux comme le brie à Savarin. Je sais qu'on est assez gourmand là-dessus, ou un petit chèvre sec de Chavignol par exemple, ou un petit picodon de la Drôme et de l'Ardèche, et ou encore un très beau pain de campagne avec un petit morceau de roquefort. Je vais me régaler avec ça.
Quelle est votre épice préférée ?
J'ai un penchant. J'aime beaucoup le poivre des Monts d'Olivier Rolager.
Je comprends. Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Si vous deviez choisir une priorité pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre, laquelle serait-ce ?
Moi, je trouve qu'il faut savoir manger de tout un petit peu et un petit peu de tout. Donc,
ne pas être dans des religions alimentaires.
Je ne suis pas dogmatique. Je pense, alors s'il y a un message que je voudrais bien pouvoir passer, je pense que c'est sain pour notre corps de manger tout un petit peu et un petit peu de tout. Et je pense que des régimes très... ou des décisions très radicales, je ne mange plus de viande, je suis vegan, je suis ceci, je suis cela, je ne suis pas certain que ça soit la vraie solution. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être un peu vegan, mais je pense que nous sommes des omnivores et nous sommes faits pour manger de tout. Et je pense que notre corps, il a besoin de tout.
Pascal Weiber, merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous.
Au revoir, Bidin. Merci. Merci de m'avoir écouté comme ça.
Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Bina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci.
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.